Bonjour à tous. On est content que vous ayez pu nous rejoindre ce matin. Bienvenue à ceux qui ont bravé les barrières pour la course du marathon. On espère que vous êtes bien à l'aise avec nous et on veut juste ensemble se mettre à l'écoute de la parole de Dieu maintenant. Comme Paul l'a annoncé, donc on continue notre série dans Exode et on en est donc au chapitre 19 et on va voir deux bonnes portions dans le chapitre 19 et le chapitre 20. Donc un peu différemment de d'habitude, on va pas faire la lecture directement de ces deux passages, mais je la ferai donc au fur et à mesure en donnant quelques explications. J'aimerais dire juste trois remarques en guise d'introduction pour essayer de baliser un peu le terrain avant d'aller plus en avant dans le texte aujourd'hui. Ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe pour le peuple d'Israël à cette époque-là. Et nous, on n'était pas là, ça remonte à bien longtemps, on est dans l'ancienne alliance. On est au moment de la fondation de cette ancienne alliance, alors que nous sommes, si nous avons mis notre foi en Christ, dans la nouvelle alliance. Donc on a besoin un peu de baliser le terrain pour qu'on puisse comprendre comment ça nous parle à nous, le texte qu'on va lire ce matin. Première remarque, c'est que d'abord, Dieu avait dit dans Exode chapitre 3 verset 12, « Je serai avec toi, il parle à Moïse, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et la montagne de Dieu dont il est question, c'est Horeb, c'est le Sinaï, c'est là où ils sont en fait, justement à cet endroit-là. Alors, se retrouver à la montagne, c'est le signe que Dieu est avec Moïse et avec le peuple d'Israël, comme il l'avait promis. Et on va voir dans quelques instants, c'est pas juste un concept, d'accord? Dieu va le montrer qu'il est vraiment là. Le Dieu qui sauve nous a été décrit, il a été dépeint devant nos yeux dans toute sa puissance pour libérer le peuple d'Égypte. Et maintenant, on va voir le Dieu qui sauve, qui est là, qui demeure avec son peuple. Et donc tout le reste du Pentateuque et même le reste de l'Ancien Testament et dans un sens de la Bible, voilà, se fonde sur cette délivrance du peuple d'Israël par Dieu lui-même. Donc, deuxième remarque, Dieu maintenant va faire un pacte, une alliance. Je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous avez déjà fait des pactes avec des copains. Alors, on va être les copains pour toujours, d'accord? Et puis, on s'engage que ça va être notre petit club fermé. Et on aura un petit nom de code, on aura un petit geste de reconnaissance entre nous, d'accord? Ça sera secret. Et ça va montrer que entre toi et moi, il y a une relation tout à fait spéciale, particulière. Ici, un peu plus sérieusement, même qu'entre des copains, même les gens très sérieux, les hommes politiques, les dirigeants du monde, quand ils font un papier très officiel, ils suivent aussi une certaine logique des choses. En général, il y a un petit préambule, il y a un rappel des circonstances historiques, et on explique les réglementations qu'on va mettre en place, et puis après on dit, voilà, on va s'efforcer de faire ça, et comme ça, on vise tel but, tel objectif, et tous ceux qui vont pas aller dans le même sens, il y aura des sanctions contre eux. Par exemple, je vous lis juste très rapidement le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est-ce pas ? Donc, les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que, alors petit rappel historique, l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever, ok ? Pourquoi ils n'ont pas dit ça tout de suite ? Et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Et puis, blablabla, ça continue et ça explique, ok, c'est quoi les droits, c'est quoi les devoirs et comment ça se passe si jamais on va à l'encontre de ça. Donc on va voir un peu de ça aussi aujourd'hui. Dieu qui fait alliance, et il y aura, on est un peu dans le préambule aujourd'hui, on est un peu dans les circonstances historiques qui amènent à Dieu de donner des réglementations. Ça va, ça c'est la deuxième balise, troisième balise et dernière. Comment ce texte nous parle-t-il? Alors que nous qui sommes chrétiens, sous le régime donc de la nouvelle alliance, on n'est pas donc comme dans la même position que le peuple d'Israël au mont Sinaï. Donc il faut d'abord comprendre ce qui a été écrit à eux et comment Dieu s'est révélé à eux et qu'est-ce que ça veut dire pour eux avant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes sous un régime différent. Donc on va essayer de s'efforcer et je vais essayer de vous guider. Mais c'est une bonne chose de vous rappeler ça quand vous lisez ces passages pour vous-même, qu'on ne doit pas plaquer directement pour nous. Ok, Moïse y fait ça, donc moi je dois faire ça. Ah, le peuple d'Israël fait ça, donc moi je dois faire exactement comme ça. Parce que, voilà, c'est nuancé par le reste de la révélation biblique. Mais une chose ne change pas, et Paul l'a rappelé tout à l'heure. En tout cas, Dieu est le même. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand on va voir comment il s'adresse au peuple d'Israël, quand on va voir ce qu'il requiert du peuple d'Israël, ça dit quelque chose quand même de notre Dieu et de la relation qu'on doit avoir avec lui. Alors, il y a pas mal de pain sur la planche, mais on va demander l'aide de Dieu pour ce matin, en quelques minutes, juste donner des bons repères qui vont être utiles pour nous, pour notre vie avec le Seigneur. Donc, je vous invite à prier courtement. Seigneur, on se remet à toi. Seigneur, on sait qu'on est à un moment crucial ici dans le récit biblique. On sait qu'il y a plein de choses ici dans ce texte. S'il te plaît, conduis-nous, conduis-moi pour expliquer les choses vraiment essentielles, les choses qui vont nous aider, nous, à marcher à ta suite, que ce soit bien appliqué pour nous, Seigneur, d'une manière qui est correcte, qui respecte l'Écriture, qui respecte le déroulement de l'histoire du salut. Seigneur, nous demandons l'aide de ton Esprit Saint pour produire une œuvre bonne dans notre cœur, selon ce que tu avais prévu de tout temps quand tu as inspiré ce texte à Moïse. Merci, Seigneur, de nous conduire. Amen. C'est incroyable, n'est-ce pas, de lire un texte que Moïse a écrit au 15e siècle avant Jésus-Christ et que ça nous parle encore aujourd'hui. Je vous invite à commencer un peu la lecture du passage. Donc on est au chapitre 19 de Exode et on va lire les versets 1 jusqu'à 8. Le troisième mois, à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse va appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Tout le peuple répondit ensemble, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Alors, on est en train d'entrer un peu dans les termes du contrat, de l'alliance que Dieu est en train de faire avec le peuple d'Israël, les fils d'Israël, littéralement, les descendants donc d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et on est 3 mois, donc jour pour jour, après la sortie d'Égypte. Ils se retrouvent à la montagne, signe donc, comme j'ai dit, que Dieu est présent là avec Moïse, avec le peuple. Et ce même Dieu, le Créateur, l'unique Dieu, va maintenant s'approcher pour faire alliance avec les fils d'Israël. C'est un bon petit rappel juste ici que c'est toujours la grâce est toujours première. C'est toujours Dieu qui est à l'origine des bonnes initiatives pour nous. C'est Dieu qui prend l'initiative ici d'appeler son peuple hors d'Égypte, qui le fait venir jusqu'à lui, qui maintenant va descendre, s'approcher de son propre peuple. Quand c'est de la part de Dieu, c'est toujours bon. Quand le peuple, par contre, ou les hommes font indépendamment de Dieu et du cadre fixé par Dieu, et des initiatives, prennent des décisions, souvent ça tourne au désastre. Alors c'est bon de se rappeler, si on est là ici ce matin, juste simplement ça, en fait, c'est de toute façon, comme on voit toujours dans l'histoire, c'est premièrement la grâce de Dieu qui nous permet ça. Alors Moïse, il est appelé par Dieu à monter dans la montagne. Vous avez lu avec moi. Moïse, donc, il continue d'être sollicité par Dieu comme un médiateur, un intermédiaire entre Dieu et le peuple. On a déjà vu ça auparavant dans Exode. Et les paroles que Dieu adresse à ce moment-là sont un résumé, en quelque sorte, de, en fait, tout le livre d'Exode. Il y a un regard en arrière sur ce que Dieu a fait, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, a bien tenu parole. Il avait dit que le peuple serait en esclavage en Égypte pendant 430 ans, et puis, voilà, jour pour jour, au bout de 430 années, le peuple sort miraculeusement par la puissance de Dieu qui défait les dieux de l'Égypte, qui les bat complètement à plate couture, il libère son peuple et il l'amène dans sa présence. Et on voit aussi une grande descendance que Dieu avait promise à Abraham, ben elle est là, ils sont en train de camper, maintenant ils sont nombreux au pied de la montagne. Et donc, est-ce que c'est le lieu maintenant? Rappelez-vous, c'est le troisième volet de la promesse à Abraham. Il y aura aussi un lieu où le peuple pourra être en présence de Dieu, en plus de sa relation spéciale. Donc, on dirait qu'on avance un pas de plus ici. Mais peut-être vous avez remarqué, peut-être ça vous a choqué, peut-être surpris. Ça semble un peu différent maintenant. Parce que pour Abraham, l'alliance était inconditionnelle. Abraham n'a rien fait pour solliciter Dieu, et Dieu lui offre ses promesses-là gratuitement, je dirais, entièrement, sans contrepartie de la part d'Abraham. Mais ici, l'alliance que Dieu est en train de sceller avec le peuple d'Israël est conditionnelle. Ce n'est pas complètement déconnecté de l'alliance inconditionnelle avec Abraham, mais en même temps, on sent qu'il y a un petit écart sur certains aspects. Vous avez vu ça au verset 5. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. Alors, il semble qu'il faut obéir à Dieu pour pouvoir bénéficier des bénédictions de cette alliance, de cette relation spéciale avec Dieu. Ces bénédictions, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui est promis en cas d'obéissance ? La première chose, c'est vous, c'est-à-dire le peuple d'Israël, les descendants physiques de Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils seront le bien propre de Dieu. Pas parce qu'ils seront bien nettoyés, mais parce qu'ils seront précieux. Ça lui appartiendra personnellement. Alors, est-ce qu'on réalise ça, que c'est un Dieu tout-puissant, le Dieu transcendant, qui est en train de dire, voilà, ce petit peuple-là, il m'appartiendra et ce sera mon trésor particulier. Toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu. Il le dit juste dans le verset qui suit. Toute la terre appartient à Dieu. Bien sûr, c'est le Créateur. Mais il décide de porter toute son affection sur un peuple particulier, le peuple d'Israël. Ce sera son trésor personnel. Je ne sais pas comment, si vous avez des petits noms pour appeler votre chérie, peut-être vous dites mon petit trésor de temps en temps. Un peu, c'est comme si Dieu est en train de dire ça. Le Dieu Tout-Puissant qui est en train de dire à Israël, voilà, vous serez mon petit trésor, mon peuple précieux, précieux à mes yeux. La deuxième bénédiction qui est en vue, c'est d'être un royaume de prêtres. Alors, on explique de nouveau, qu'est-ce que c'est un prêtre ? Un prêtre, c'est celui qui a un accès spécial à Dieu. Et donc, Dieu est en train de dire, voilà, mais vous tous, ensemble, en tant que peuple, collectivement, vous aurez un accès ensemble à moi. Et on va voir de quelle manière ça va être rendu possible plus tard. Mais juste pour expliciter ici en quelques mots, ça va passer par le tabernacle. On va voir ça à partir du chapitre 25. Et le système des sacrifices, ça c'est l'objet de tout le livre de Lévitique. D'accord ? Et en fait, j'aurais peut-être dû préciser ça, mais l'alliance qui est en train d'être commencée à être scellée ici, elle inclut tout le reste d'Exode et tout le livre de Lévitique aussi. Mais ce n'est pas simplement vis-à-vis de Dieu que le peuple va être un royaume de prêtres. Mais idéalement, Israël, le peuple d'Israël, devait aussi jouer un rôle vis-à-vis des autres nations autour d'elle. Et dans ce sens-là, il y a aussi ce petit rappel de cette promesse faite à Abraham, que ça ne concernait pas juste lui et sa descendance, mais que ça allait concerner toutes les nations. Et donc, en étant proche de Dieu, en étant des sortes de personnes qui ont accès à Dieu, ils devaient bénir aussi tout le reste des peuples de toutes les nations autour d'eux. Mais à condition d'obéir à la loi. La troisième bénédiction que Dieu promet, c'est, voilà, vous serez une nation sainte, une nation mise à part, séparée de tout le reste, pour un but précis, rendre gloire à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Et en accomplissant la loi, en obéissant à Dieu, le peuple va ainsi ressembler à Dieu qui est lui-même saint, sans péché. Donc la loi enseigne comment est Dieu, et comment devraient être ceux et celles qui lui appartiennent. Il devrait être en son image. En fait, c'est le projet depuis toujours de Dieu avec l'humanité. Il devrait ressembler à Dieu qui est juste, bon et saint. Et on l'a lu, vous l'avez lu avec moi, le peuple, à ce stade, il répond, on va faire tout ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, on va le faire. Et on ne devrait pas douter de la sincérité du peuple à ce moment précis. Mais on peut quand même se demander, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir longtemps? Parce qu'on a déjà eu quelques indices dans les chapitres précédents que ça ne va pas être simple. Le peuple déjà a maugréé contre Dieu, a murmuré contre Dieu, s'est rebellé contre Dieu, pour une question de pain, pour une question de nourriture. Et plus tard, Moïse n'est pas dupe. Dans Deutéronome, dans le livre des Nombres aussi, et plus tard, juste historiquement, on va voir même dans le chapitre 32 d'Exode, que le peuple va désobéir. Donc dans la conclusion, je répondrai rapidement à cette question-là qui est un peu soulevée. Mais pour le moment, il nous faut juste sentir le poids de ce qui se passe pour Israël. Dieu vient à lui et il dit, voilà, vous avez des bénédictions, des super bénédictions, ça va être génial. Et donc, il faut obéir. Si vous obéissez, vous aurez accès à cette bénédiction. Le peuple répond, on va le faire, on va le faire. Et donc Dieu dit, alors, j'arrive, je vais sceller moi-même cette alliance, je vais la signer directement avec vous. Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer? Le Dieu inapprochable, celui qui a fait les galaxies les plus lointaines, qui sait ce que c'est un quartz, de façon encore plus nette que le meilleur scientifique sur la planète Terre, celui qui voit dans notre cœur, celui qui est puissant pour soutenir le monde, non seulement après l'avoir créé. Ce Dieu inapprochable, qui est dans une lumière inaccessible. C'est ce Dieu-là qui s'approche maintenant. Et lisez avec moi comment ça se passe, à chapitre 19, versets 8 à 25. Moïse, il redescend vers le peuple. Il répéta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Je viens à toi dans la nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il mette pour toujours sa foi en toi. » Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour en disant, « Gardez-vous de monter dans la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Celui-là, on ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera ou bien on le criblera de flèches. Que ce soit une bête ou un homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront dans la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il consacra le peuple et il lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, « Soyez prêts, dans trois jours, ne vous approchez pas d'une femme. » Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne avec un fort son de trompe. Tout le monde qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent debout au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme celle d'un fourneau et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompe se faisait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Ainsi, le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. Le Seigneur dit à Moïse, « Descends, avertis le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers le Seigneur pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les prêtres qui s'approchent du Seigneur se consacrent aussi, de peur que le Seigneur ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse dit au Seigneur, « Le peuple ne pourra pas monter au Sinaï, car tu nous as toi-même avertis en disant, « Fixe des limites à la montagne et consacre-la. » Le Seigneur lui dit, « Va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers le Seigneur, de peur qu'il ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Et si vous voulez bien juste aller un peu plus loin, au chapitre 20, versets 18 à 21, juste encore ces quelques versets. Chapitre 20, versets 18 à 21. Tout le peuple voyait les coups de tonnerre, les éclairs, le son de la trompe, la montagne fumante. Le peuple vit, ils tremblèrent et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tenait à distance. Mais Moïse s'approcha de l'obscurité épaisse où était Dieu. Waouh ! On a peine à imaginer exactement comment ça devait être ce moment-là. En tout cas, une chose est claire, n'est-ce pas ? Dieu met en évidence le besoin de sainteté. Il a déjà dit, son but c'est que la nation d'Israël soit sainte, parce que lui-même, il est saint. Comment un Dieu saint peut-il faire alliance avec un peuple pécheur, sale, souillé par ses péchés, par sa désobéissance, par ses offenses vis-à-vis de Dieu? Comment peut-il s'approcher tout simplement, voire vivre avec ce peuple-là? Alors Dieu donne des recommandations, des ordres pour le peuple qui soulignent la sainteté, le besoin d'être pur pour s'approcher d'un Dieu pur. Donc il y a des limites, il faut se laver, il faut changer ses vêtements. Peut-être vous avez été surpris, il ne faut pas toucher de femme. Un passage dans 1 Corinthiens 7, 5 par exemple, qui peut peut-être nous aider, où Paul dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Et peut-être juste pour équilibrer un peu, c'est pas que Moïse ou Dieu est en train de dire « Ouh là là, c'est sale, les relations sexuelles dans le cadre du mariage, on devrait vraiment, si c'est vraiment une nécessité, on doit y aller, mais sinon on devrait s'abstenir de ça ». Non, non. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Et on voit dans Genèse 2, dans l'institution du mariage aussi, il y a place pour ça. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, dit Paul. Et donc ça, c'est une recommandation même qu'il nous fait à nous, membres de la Nouvelle Alliance. Puis retourner ensemble. Donc le Seigneur n'est pas contre le corps, le Seigneur n'est pas contre le mariage, n'est pas contre la pleine expression du mariage, même dans l'intimité. Mais il y a des moments où c'est bon de mettre un temps à part pour réfléchir à notre vie, pour nous placer devant Dieu, l'un et l'autre, pour réaliser qu'il y a plus que cette vie ici, que nous sommes face à un Dieu qui est là-haut, qui est à part, qui est saint. Si ça pose des questions, venez me voir après. Regardez ce qui est encore étonnant ici. Même les prêtres, et on dirait, donc il y a comme une insistance. Le prêtre aussi devra se consacrer. Et juste une petite application ici. Attention de ne pas compter sur un statut, sur une étiquette. Ça ne tient pas devant Dieu. Si on est responsable dans l'église pour un service, pour une tâche qui nous a été confiée, on ne peut pas se barricader derrière en disant, ben voilà, moi c'est bon, j'ai mon nom sur l'organigramme de l'église, je n'ai pas besoin de cette consécration. Que les autres le fassent. D'ailleurs, je vais les aider, je vais les enseigner. Ça, c'est hypocrite, n'est-ce pas? Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le prêtre aussi, même ceux qui avaient des positions particulières dans le peuple de Dieu devaient se consacrer. C'est le peuple dans son entièreté qui est appelé à être saint. Personne n'est au-dessus du lot. Et ce n'est pas non plus suffisant de compter sur ses parents ou sur l'histoire de la famille. Ben ça va, j'ai quelques pasteurs dans les générations précédentes. Donc je suis déjà arrivé, je suis déjà consacré. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Et vous remarquez que même purifié rituellement, il reste encore des limites à ne pas franchir sur la montagne. Sinon, c'est la mort. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas accommoder Dieu à notre façon de faire. C'est nous qui devons nous accommoder à sa façon d'être. Et dans notre état livré à nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Avec notre propre justice, avec nos explications ou nos excuses, nous ne pouvons pas être en présence de Dieu. Alors c'est un peu fou que voilà le Dieu inapprochable, justement, s'approche. Le Dieu transcendant vient à la rencontre du peuple qu'il a sauvé, pour lui parler, pour être tout particulièrement présent. C'est plus un signe, c'est pas comme un poteau indicateur, oui, je vous ai sorti d'Égypte, c'est un signe, voilà, ok, donc on imagine que Dieu va être là. Non, maintenant il est vraiment là, réellement. Et l'expérience, elle est terrifiante, elle est impressionnante. Les éclairs, la fumée, le son de la trompette. Et vous remarquez dans toute cette expérience un peu terrifiante et impressionnante ce qui arrive pour Moïse, chapitre 19, versets 19 et 20. « Ainsi le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. » Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Dans la confiance, il avance vers ce Dieu saint. Notez encore au chapitre 20, versets 19 et 20. « Tout le peuple voyait les coups de tonnerre, les éclairs, le son de la trompe, la montagne fumante. Le peuple vit. Ils tremblèrent et se tinrent à distance. » Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. » Et Moïse, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, « N'ayez pas peur, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tenait à distance, mais Moïse, tiens, lui, il s'approche de l'obscurité épaisse où était Dieu. Il était tremblant aussi, nous dit Hébreux 12, mais il s'approche. Il vient vers Dieu qui l'appelle. Et juste dans cette partie, on voit que Dieu est en train de préparer l'attitude de cœur du peuple. Dieu veut que le peuple ait la bonne attitude avant même de donner les lois, les prescriptions, les réglementations. C'est le cœur vraiment qui compte. Avant de se retrousser les manches, si vous voulez, pour faire des choses selon la volonté de Dieu. Si on veut pouvoir dire honnêtement, comme le peuple, tout ce que Dieu a dit, je le ferai, ça commence par un changement du cœur. Et on va voir dans les prochains chapitres que c'est là le grand problème pour l'ancienne alliance. Elle ne pouvait pas changer ce cœur-là. Et on arrive alors au verset 1 à 17 du chapitre 20. On voit le Dieu qui sauve, qui explicite maintenant, qui explique le contenu de l'Alliance. Est-ce que vous voulez bien lire avec moi? Chapitre 20, versets 1 à 17. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis le Seigneur, Yahweh, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut, de ce qui est sur la terre, en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre, dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur Yahweh, ton Dieu, pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. C'est ce qu'on appelle classiquement les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu qui sont un résumé. Et dans les chapitres suivants, donc jusqu'au chapitre 24 et même après ça, dans le reste de l'Exode, dans Lévitique, tout ça va être développé encore plus, précisé. Comment ça s'applique dans la vie réelle, comment ça s'applique concrètement. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Mais je ne vais pas m'attarder longtemps sur aller dans le détail de ces 10 commandements, mais vous connaissez peut-être, ou vous avez remarqué, que les 3 premiers commandements concernent notre relation avec Dieu. On est censé ne pas avoir d'autre Dieu que le vrai Dieu, qui est en train de se manifester ici, devant les yeux du peuple d'Israël, et dont nous, on a un récit ici. Il n'y a que celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et il est jaloux pour sa gloire, il ne va pas laisser un autre Dieu à venir réclamer notre cœur, notre allégeance. On ne doit pas du coup fabriquer d'idoles, de statues, se prosterner devant elles, ni invoquer le nom du Seigneur en vain ou pour tromper. Puis il y a le jour du sabbat, qui est aussi un jour mis à part pour pouvoir justement consacrer ce jour-là au Seigneur pour réfléchir, s'arrêter dans notre vie. Arrêter de courir après les choses matérielles, mais bien nous souvenir que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et Dieu demande ce jour-là pour lui-même. Il demande tous les jours de notre vie, n'est-ce pas? Mais il y a un temps pour s'arrêter dans notre ouvrage et considérer Dieu. Et puis les 6 donc ordonnances qui suivent, les 6 commandements qui suivent sont un peu plus tourné vers l'amour du prochain, vers notre rapport avec le prochain. Et bien sûr, Jésus résume toute la loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, toute ton âme, ta pensée, tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, honore ton père et ta mère, ça c'est le premier. Et puis tous les autres que vous connaissez bien aussi. Tous ces lois-là que Dieu donne, elles sont pas faciles à faire. Et en fait, dans toutes ces choses-là, on n'a pas la bonne attitude, le bon cœur. Le peuple d'Israël l'a pas eu pour obéir parfaitement à tout cela. On va voir qu'est-ce que Dieu prévoit alors en cas où on désobéit. Est-ce qu'il y a possibilité d'un rattrapage? Et on verra un petit peu plus loin le système des sacrifices. Mais je voudrais conclure ici et tirer quelques applications de ce qu'on a lu. D'abord, j'espère que vous sentez bien la différence avec la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. L'ancienne, si vous avez lu suffisamment la Bible, vous savez qu'elle n'a pas tenu. Juste quelques chapitres plus loin, avant même qu'elle soit finalisée, avant même qu'elle soit ratifiée, avant même que Dieu puisse signer et le peuple puisse signer ensemble à la fin du document, c'était foutu. L'ancienne ne tiendra pas, elle n'a pas tenu. Mais quelqu'un a obéi pour nous dit le reste de la Bible, le reste de la Révélation. Et nous sommes au bénéfice, non pas de notre propre obéissance, sinon ça serait peine perdue aussi, mais nous sommes au bénéfice de l'obéissance de Christ à cette loi qui vient d'être dictée à Moïse, au Sinaï, et à tout le peuple. Et par Christ, nous aussi, nous avons le bénéfice de l'obéissance à la loi. Et nous avons donc la bénédiction qui est promise par Dieu ici. Nous sommes le trésor, le peuple que Dieu chérit, l'Église et la prunelle, comme la prunelle des yeux de Dieu. C'est sa femme chérie, en fait. Il parle plus loin dans les prophètes et dans le Nouveau Testament de cette relation, comme avec une épouse. Et puis, par Christ, nous sommes devenus un royaume de prêtres et une nation sainte. L'apôtre Pierre dit, applique maintenant cela en toute sa force à l'Église, dans la première lettre de Pierre au chapitre 2. Et tout ça s'est rendu possible par Christ, qui non seulement a obéi pour nous, qui a pris sur lui la mort que nous méritions de ne pas avoir obéi à la loi de Dieu, et qui, par sa résurrection, nous permet d'être renouvelé dans notre relation avec Dieu. Non seulement il a obéi, mais en plus, grâce à lui, nous recevons un cœur nouveau. La circoncision du cœur dont Moïse parle un peu plus loin, le changement radical du cœur qui va nous permettre d'obéir. C'est Christ aussi qui nous l'acquiert. Et non seulement nous avons un cœur nouveau, mais nous avons l'Esprit de Dieu d'une façon plus personnelle et plus grandiose encore que ça n'avait été le cas dans l'Ancienne Alliance. Chacun des membres du peuple de Dieu reçoit l'Esprit de Dieu. C'est le grand miracle, si vous voulez, de la Pentecôte. Alors, si nous sommes membres du peuple de Dieu, nous sommes circoncis de cœur. Notre cœur a été changé. Nous n'avons plus un cœur de pierre et des tablettes de pierre, mais un cœur de chair. Et la loi de Dieu est inscrite dessus. Quel contraste! Quelle bénédiction, quelle joie alors, en repartant ce matin, que nous ne comptons pas sur nos propres sacrifices, notre propre obéissance, mais nous pouvons être en sécurité grâce à Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, arrêtez de courir pour essayer de vous justifier vous-même. La seule personne que vous avez besoin de regarder, c'est Christ. Et bien sûr, cette grâce qui nous est faite, elle ne nous dédouane pas d'obéir à Dieu. Je lis dans Tite, au chapitre 2, versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Un des apprentissages, une des choses qu'on apprend ici, qui était aussi le même enseignement pour le peuple d'Israël, c'est que Dieu attend quand même une obéissance, Dieu attend quand même une action de notre part. Et donc, c'est ce que Moïse dit, en particulier au verset 20, donc du chapitre 20. Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez la crainte de lui. » C'est marrant, il dit « N'ayez pas peur » et après il parle de crainte. Et nous connaissons ça aussi, nous n'avons plus peur de Dieu, dans le sens de trembler comme s'il allait nous punir. Nous savons que par Jésus, Dieu est maintenant favorable. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir de la crainte, un respect immense pour ce Dieu, justement, qui nous a sauvés. Et c'est ce que Moïse est en train de dire ici. Nous devrions avoir la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Pourquoi ? Afin de ne pas pécher contre lui. Dieu attend que nous ne péchions pas. L'application, elle est toute simple pour nous. Réfléchissons à deux fois avant de pécher. Dieu est saint, il est un feu qui consume. Hébreux chapitre 12 fait un parallèle entre cet épisode dans Exode et puis nous dans la Nouvelle Alliance. Réfléchis à deux fois avant de pécher. Parce que la loi n'est pas mauvaise, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Tout comme Dieu est bon, juste et saint. Et ce Dieu désire que nous vivions dans cette sainteté. Réfléchis à deux fois avant de pécher. Quand tu es face à face avec la tentation, avec le malin qui pourrait venir exiger un service de ta part, qui te fait miroiter une bénédiction autre que celle que Dieu promet, ou par d'autres moyens que ceux choisis par Dieu, une des bonnes aides pour nous, c'est d'avoir la crainte de Dieu, c'est de voir Dieu. Comme le peuple d'Israël était en train de voir Dieu sur la montagne, avec les coups de tonnerre, avec le son de la trompette, avec la fumée, avec le feu. Et se rappeler que Dieu est un Dieu qui est bien différent de nous, qui est transcendant. Et avoir cette vision-là de Dieu va nous garder face au péché, face à la tentation. Je pense que c'est ce que Jésus a fait dans le désert. Quand le malin vient, il lui dit « Mais j'ai une autre parole que j'ai reçue de Dieu, qui est plus importante que celle que toi tu dis. Et j'ai plus de respect pour ce Dieu, Dieu le Père, que pour toi. » Et pour terminer, j'ai noté ici, je ne sais plus trop pourquoi maintenant, mais la loi de l'ancienne alliance. Pour entrer dans l'alliance, il fallait obéir, juste un rappel. Mais la loi de la nouvelle alliance, c'est la loi de l'ancienne qui est accomplie pour nous par Christ dans sa mort et sa résurrection. La loi de la nouvelle alliance englobe et augmente celle de l'ancienne. Voilà. Et comme on est en train de le voir dans les groupes de partage, dans le sermon sur la montagne, Christ n'est pas en train de dire « oui, ça c'était du passé, maintenant il y a... » c'est totalement différent. Il est en train de dire « tout ça, ça doit s'accomplir. » Et en plus, les exigences sont encore plus grandes. Juste pour dire que, de nouveau, la nouvelle alliance aussi requiert obéissance de notre part, mais elle n'est pas la condition pour obtenir les bénédictions de Dieu. Je voudrais lire avec vous pour conclure un passage dans Hébreux au chapitre 12. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, verset 15, à ce qu'aucune racine d'amertume en produisant des rejetons ne cause des perturbations et qu'une multitude n'en soit souillée. Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur comme Ésaïe, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter la bénédiction, il fut rejeté en effet. Il ne trouva aucune possibilité de changement, bien qu'il l'ait recherché dans les larmes. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché en effet de choses palpables, ni d'un feu ardent, ni d'une obscurité, ni de ténèbres, ni d'une tempête, ni d'un son de trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Qui touche la montagne, même une bête, sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de dizaines de milliers d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux de Dieu, juges de tous, des esprits, des justes portés à leur accomplissement, de Jésus, le médiateur d'une alliance neuve et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Et donc, bien que ce spectacle ait été étonnant et terrifiant, nous approchons de Dieu de façon encore plus glorieuse dans la nouvelle alliance. Nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous par Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Alors, que cela puisse nous réjouir pendant cette semaine, que ça puisse nous garder aussi face à notre lutte contre le tentateur. Amen.